Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Leur condition d'homme ou de femme, le sexe qui leur a été attribué à la naissance ne correspond pas à l'identité qu'ils ressentent. Les transgenres revendiquent leur place et leur histoire au grand jour. C'est ce que raconte la journaliste belge Bo van Spilbeek qui, après avoir vécu 58 ans dans le costume d'un homme, grand reporter sur la chaîne phare flamande VTM, est devenue femme après ce qu'on appelle une opération de réattribution sexuelle. Son histoire, qu'elle a racontée dans un livre, fait d'elle aujourd'hui une porte-parole de cette cause longtemps cachée. Elle a reçu dans son travail et dans son pays un accueil extraordinaire. Le Premier ministre Charles Michel l'a félicité pour, je cite, « son courage et sa persévérance ». Comment je suis devenu beau, c'est le titre de son livre et c'est aussi l'histoire d'une renaissance qu'elle a racontée Alex Milota.
Jusqu'il y a 2 ans, je m'appelais Baudouin. J'ai vécu 58 ans en homme et aujourd'hui, je suis une femme épanouie et heureuse.
Aujourd'hui, vous vous sentez comment ?
Eh bien, j'ai enfin un corps qui s'accorde avec mon esprit, avec mes sentiments et le fait d'avoir été accepté par tout le monde pratiquement, de n'avoir perdu personne en cours de route, m'enchante. J'ai la chance que mon épouse, avec qui je suis marié entre-temps 32 ans, avec qui je suis ensemble depuis 36 ans, m'a accepté. Ce n'est pas facile tous les jours. Mes enfants adultes m'ont accepté, mes collègues, mes amis, et je continue à faire le boulot merveilleux que j'ai toujours fait, être journaliste en télévision.
Mais pendant de nombreuses années, il y a eu une souffrance.
J'ai eu une vie heureuse, en ce sens que j'ai une femme et des enfants fantastiques, un boulot merveilleux. Mais il y avait toujours ce petit manque, cette partie de moi qui n'était pas en harmonie. Et ça devenait de plus en plus difficile à supporter, car c'était quelque chose qui datait déjà de mon enfance, puisque à 8 ans, j'ai pour la première fois eu l'impression que je voulais peut-être être une fille, sans vraiment savoir à ce moment-là ce que ça signifiait. Et alors par après, ça s'est amplifié, ça s'est augmenté, et puis j'ai vécu pendant des dizaines d'années une sorte de double vie, c'est-à-dire que quand j'avais des moments libres en semaine, je m'habillais en femme, et voilà, je vivais ma journée en femme. Et puis je me suis dit à un certain moment que ça ne pouvait plus continuer. J'avais l'impression d'être déguisé quand j'étais en homme. Je n'ai jamais eu cette impression quand j'étais en femme d'ailleurs. Mais pendant des années, j'ai cru que j'étais trop âgé, que j'avais raté le coche.
Est-ce qu'il y a un moment, quelque chose qui vous a fait réaliser qu'il était possible de ne plus souffrir ?
Je voyais certainement ces dernières années sur YouTube beaucoup de jeunes transgenres, des garçons de 18, 20 ans, 25 ans parfois, qui devenaient de splendides jeunes femmes. Et je me disais, ben moi j'ai plus de 50 ans, c'est trop tard. Et puis il y a eu le cas de Caitlyn Jenner, qui avait 10 ans de plus que moi, qui avait 65 ans à l'époque, qui était connue comme championne olympique de décathlon à Montréal en 76. Et quand cette personne-là, Bruce, a décidé de devenir Caitlyn, je me suis dit que pour moi, c'était encore possible. Et voilà, ça a été le déclic. Et puis, j'ai rencontré quelques personnes qui m'ont mis sur la voie. Et puis, c'est à ce moment-là que je me suis adressé à mes chefs, également à la porte-parole de ma chaîne de télévision, pour leur dire, voilà, je vais bientôt vivre en femme. Et alors là, on a quand même réfléchi à la communication, puisque pendant 28 ans, j'ai été journaliste masculin, grand reporter. Donc, je ne pouvais pas vraiment faire ma transition en catimini. On a décidé qu'il fallait faire la transition en un jour. Un soir, le 29 janvier 2018, j'ai fait une déclaration dans notre journal télévisé, en homme. Et le lendemain, le 30 janvier, je suis venu pour la première fois travailler en femme.
Tout a l'air très positif, votre vie, votre livre, la médiatisation, le soutien. Est-ce que vraiment tout est positif ?
Oui et non. C'est-à-dire que ma transition est une transition qui est effectivement extrêmement positive, qui a été acceptée bien plus que ce que je ne pensais. Mais ce n'est pas un roman à l'eau de rose, c'est pas vraiment un conte de fées. J'ai mes moments difficiles, que ce soit à cause de quand même les séquelles des opérations. Disons que mon opération de réassignation sexuelle ne me pose aucun problème, mais les opérations au visage m'ont quand même donné des soucis pendant un certain nombre de mois.
Est-ce que vous avez le sentiment d'être devenue une icône ?
C'est très double d'être une icône. Le jour de mon coming out, quand j'ai fait ma déclaration en homme, j'ai dit que je pensais devenir une sorte de modèle pour d'autres. Mais je n'ai jamais cru que ça allait durer si longtemps et que ça allait s'étendre si loin. Oui, je crois que c'est un devoir que j'ai, que je dois jouer ce rôle, mais je ne sais pas si je veux le jouer jusqu'à la fin de mes jours.
Est-ce que sur le terrain, par exemple, dans votre métier, vous avez noté du changement ? Est-ce que, par exemple, il y a toujours le respect de vos confrères ?
La plupart des gens, des collègues, des personnes que j'interviewe me regardent comme avant. Dans la plupart des cas, c'est plutôt positif. C'est-à-dire que les hommes et mes collègues sont galants. Pas plus tard qu'il y a 3 jours, j'avais un problème avec mon ordinateur, avec un câble qui était mal raccordé. Eh bien, c'est un collègue masculin qui s'est mis à genoux, qui est allé sous la table pour raccorder le câble. Avant, j'aurais fait ça moi-même. Et maintenant, les hommes font ça pour moi. Donc, il y a quand même des côtés assez plaisants.
Et comment je suis devenu beau est un livre publié en français aux éditions des Arènes. Changer d'identité sur le papier, sur son passeport, avant même de changer d'apparence, c'est le parcours qu'ont entamé et réussi une 40aine de personnes dans un petit pays, pas forcément en avance sur les questions de genre et de minorité sexuelle, la Lituanie. C'est la législation européenne qui impose la non-discrimination qui a permis cette victoire devant les tribunaux. Les explications de Marielle Vitureau.
Tomas Raškevičius, militant LGBT, membre du conseil municipal de Vilnius et avocat, n'en revient toujours pas. Fin 2016, une de ses connaissances lui demande conseil pour l'aider à changer d'identité. Tovaldas, née femme, veut devenir homme. Aucun paragraphe dans le code civil n'autorise les changements d'identité pour les personnes transgenres. Le jeune avocat arrive devant les juges lituaniens avec pour seule défense un avis psychiatrique. Tomas Raškevičius s'attendait donc à devoir se battre de longues années et défendre ses droits jusque devant la Cour européenne des droits de l'homme. Mais non, la vie suffit. Aucun début de thérapie hormonale en vue d'une transformation physique n'est même requise, à la différence des pays voisins. Lors de l'audience, Tomas Raškevičius demande même au juge de répéter leur décision. Il n'en revient pas et les représentants du ministère de la Justice présents à l'audience abondent dans le même sens. Pourtant, depuis 2003 et l'adoption de la loi sur l'égalité des chances, interdisant toute discrimination sexuelle, la législation lituanienne n'avait toujours pas avancé pour offrir plus de droits aux homosexuels. En revanche, le droit européen, oui, et la nouvelle génération de juges lituaniens s'y réfèrent dans leurs décisions, ce qui permet de grandes avancées pour la communauté LGBT. Une 40aine de personnes transgenres ont ainsi pu changer d'identité, mais pour l'instant, la justice est leur seul recours. La loi qui pourrait l'autoriser n'existe pas encore.
Et la question du genre, ce n'est pas seulement un homme qui se sent femme ou une femme qui se sent homme, c'est aussi des individus qui ne se sentent ni homme ni femme et dont le corps peut aussi être intersexe. Une minorité qui compte désormais aux Pays-Bas, à de nombreux échelons de la vie courante, on leur fait une place, Antoine Moutot.
Pour parler de la neutralité du genre aux Pays-Bas, il faut aussi parler des toilettes publiques. Pendant longtemps, pour notamment certaines personnes trans ou celles qui ne se définissent ni homme ni femme, le passage aux toilettes publiques était un véritable cauchemar. C'est pour cette raison que la mairie d'Amsterdam, par exemple, mais aussi de nombreuses autres institutions comme l'université de Leiden, ont ajouté ces dernières années des toilettes mixtes, de genre neutre, accessibles à tous. Et c'est loin d'être la seule mesure de ce type prise récemment ici. Ces dernières années, la grande chaîne néerlandaise de magasins Hema a décidé de lancer une gamme de vêtements gender neutral, comme on dit ici aux Pays-Bas. Des initiatives qui en disent long sur l'évolution de la société, même si certains changements suscitent la polémique. Ce fut le cas il y a 2 ans lorsque la NS, la Société néerlandaise des chemins de fer, a décidé de remplacer progressivement dans ses trains l'annonce « Mesdames et messieurs » par « Chers voyageurs ». Une décision qui avait notamment provoqué le courroux de Geert Wilders, le chef du parti d'extrême droite PVV. Reste la question de l'identité qui a une portée d'une autre envergure. L'an dernier, Leone Seyrers, 57 ans, est devenue la première personne du pays à obtenir une carte d'identité de genre neutre. Pas de mention homme ou femme, mais un simple X à la place. Mais l'obtention d'un tel document n'est pas simple. Pour y arriver, il faut pour l'instant encore passer devant un juge. Et les cas sont rares. En juillet dernier, après avoir saisi un tribunal, Nanoa Struik, 19 ans, a également obtenu un passeport neutre.
Annette Negesa, die Sportlerin aus Uganda. Zwei Tage nach der Ausstrahlung der ARD-Doku Kampf ums Geschlecht sind vergangen. Im Netz hat sie viel Unterstützung erfahren, weltweit.
Hyper androgène, le terme désigne des femmes dont le taux de testostérone, l'hormone masculine, est naturellement plus important que la moyenne. Une anomalie que le monde du sport a bien du mal à gérer. Certaines sportives se sont vues interdire de prendre le départ d'une course. D'autres athlètes ont été opérés, mutilés de force afin de pouvoir continuer la compétition. C'est ce que révèle un documentaire allemand très fouillé, diffusé et produit par la chaîne ARD, un des rares médias qui ose s'attaquer aux pratiques de la toute-puissante Fédération internationale d'athlétisme. Bonjour Julien Méchaussy.
Bonjour Frédéric, bonjour à tous.
Vous êtes l'un de nos correspondants à Berlin. Vous avez vu pour nous ce documentaire allemand qui lève le voile sur des pratiques scandaleuses.
Un documentaire très fouillé d'une heure diffusé, comme vous l'avez dit Frédéric, sur la grande chaîne publique allemande de l'ARD, connue pour ses recherches sérieuses. D'autant plus que les journalistes derrière ce documentaire sont ceux qui avaient mis à jour il y a quelques années le système de dopage russe organisé directement par l'État. Difficile hein, donc de remettre en cause les révélations contenues dans ce film. On y découvre notamment le témoignage d'Annette Negesa, athlète hyper androgène originaire de l'Ouganda, un grand espoir de l'athlétisme sur 800 mètres parmi les favorites pour remporter l'or aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. Un rêve olympique qui lui sera volé pour cause de taux de testostérone trop élevé, une testostérone produite naturellement par son corps qui n'a rien à voir avec le dopage.
Et il n'y a que 2 solutions, Julien, pour faire baisser ce taux de testostérone, une opération chirurgicale ou un traitement hormonal.
Oui, et comme le montre ce documentaire, c'est l'IAAF, la Fédération Internationale d'Athlétisme, qui a poussé Annette Negesa à subir une opération d'ablation des organes génitaux internes, organes à l'origine du taux élevé de testostérone. Et après 7 ans de silence, elle a décidé de rendre publique son histoire.
Quelques semaines avant de partir à Londres, mon manager m'a appelé. Il m'a dit « Tu ne vas pas le croire, mais ils t'ont enlevé des listes des athlètes. Tu ne pars pas aux Jeux Olympiques. » Et puis j'ai reçu un autre appel de la Fédération internationale. Ils m'ont dit que j'avais trop de testostérone. Je leur ai dit « Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Quelle est la solution ?»
La solution imposée à l'athlète par la responsable de l'IAF a été de mentir, d'expliquer son forfait à cause d'une blessure. Mais d'après le témoignage d'Annette Negesa, la Fédération d'athlétisme ne s'est pas arrêtée là. Elle a proposé à l'athlète ougandaise un premier rendez-vous médical en France, à Nice, avec le médecin Stéphane Bermond, directeur du département santé et scientifique de la Fédération internationale. Une consultation au cours de laquelle son corps a été examiné, avant que le médecin ne lui impose, selon ses mots, une intervention chirurgicale mineure. Seule solution à ses yeux pour lui permettre de reprendre la compétition. Opération réalisée à Kampala, capitale de l'Ouganda.
Une pratique qui touche d'autres athlètes, notamment en Inde, qui témoignent également dans ce documentaire. Mais avec cette consultation à Nice, ce scandale touche aussi la France, Julien.
Interpellée également, la ministre française des Sports, Roxana Maracinaou, a confirmé il y a quelques jours, Frédéric, l'ouverture d'une enquête administrative.
Merci beaucoup, Julien Méchaussy. À très bientôt sur Accent d'Europe.
Hello.
My name is Yedei Muero.
I'm 25.
I come from Iran.
I'm studying the Environment Science Policy and Management Department in ECU.
Dernier épisode en date dans le long bras de fer qui oppose la Central European University et le gouvernement hongrois de Viktor Orban, l'université anglophone de prestige financée par le milliardaire américain George Soros, était jusqu'alors installée à Budapest, mais le gouvernement n'a cessé de lui mettre des bâtons dans les roues, surtout pour des raisons politiques. La notion de société ouverte cadre mal avec la société illibérale d'Orban. La CEU a donc entamé son déménagement direction Vienne en Autriche, à 3 heures de route avec Céline Béal.
Camila Pletuina ouvre la porte de son logement d'étudiante. 15 mètres carrés dans le 15e arrondissement de Vienne. Tout ce qu'il faut pour cette étudiante moldave studieuse qui commence un master d'histoire comparée.
J'ai vraiment l'impression d'être au cœur de l'Europe. Et c'est le cas en fait.
Camila n'a pas encore tout à fait réalisé où elle se trouvait. Comme environ 300 camarades qui sont arrivés du monde entier à la Central European University en septembre, elle a connu un début de semestre mouvementé. L'établissement les a d'abord fait venir à Budapest pour un mois, avant le début de leur cours à Vienne en octobre. Au second semestre, ils seront de retour à Budapest. Ce sera au tour d'autres étudiants de passer un semestre ici. Vienne, Budapest, deux villes qui se ressemblent presque. On y circule en tramway essentiellement. C'est d'ailleurs en tram que Camila se rend à l'université dans le 10e arrondissement. Lors d'une conférence de presse début octobre, le recteur de la CEU, Michael Ignatieff, déplorait l'absence de réaction européenne face à la remise en cause des libertés académiques en Hongrie. Un établissement chassé d'un pays. S'il a pu aller se réinstaller ailleurs, c'est qu'il peut compter sur le soutien financier du milliardaire américain George Soros. La totalité du déménagement est chiffrée à 250 millions d'euros. Humainement, ce sont 1300 étudiants et des centaines d'employés qui voient leur vie chamboulée. Scholz Enyedi, le vice-recteur et professeur en sciences politiques.
Environ 40% du corps enseignant est hongrois, ainsi que la grande majorité du personnel non enseignant. Dans le cas de ces personnes, il est évident qu'elles sont enracinées en Hongrie. Mais il faut aussi penser que nombre des employés d'origine étrangère sont mariés à des Hongrois, ont des enfants dans les écoles locales, ont des projets de vie en Hongrie, ont acheté une maison et se sont installés pour de bon. Pour eux, le déménagement est dramatique.
Comme la majorité de ses collègues, Scholz Enyedi fait des allers-retours hebdomadaires entre Budapest, où il vit, et Vienne et la CEU, où il enseigne depuis 20 ans. Il réfléchit avec sa femme à la possibilité, à long terme, de déménager en Autriche. À la cafétéria de la nouvelle faculté, Camila a retrouvé des camarades. Ils viennent de partout. Malgré la crise, le nombre de candidatures en master a même un peu augmenté. Nick Cosburn est anglais. Pour lui, ce climat de tension est même intéressant.
J'ai toujours voulu faire un master de sciences politiques, mais je n'ai entendu parler de cette université que par les infos dans l'actualité. Avec la situation qu'on vit aujourd'hui en Europe, la montée du nationalisme et du populisme, pour moi qui suis intéressé par ce genre de sujet, c'est très intéressant d'aller à une université qui est sur le fil. On voit le rapport direct, la tension qu'il y a entre l'université avec ses valeurs et celle d'autres personnes qui essaient de mettre fin au dialogue.
Certes, pour des étudiants avides d'expérience internationale, habiter à Vienne ou à Budapest, cela ne fait pas une grande différence. Mais la tourmente de la CEU pèse quand même sur Camila.
Ce n'est pas la première fois que je déménage ici ou là dans le cadre de mes études. Ce n'est pas anormal et c'est une bonne expérience pour nous. Mais il y avait quand même une chose qui a été difficile pour moi. On était censé commencer à étudier 2 semaines à Budapest et puis déménager dans un tout autre endroit en l'espace d'un week-end et continuer le lundi matin comme si rien de grave ne s'était passé.
Elle relève que dans ces conditions d'exception, il lui a parfois été difficile de se concentrer sur ses études. Pourtant, elle trouve que le personnel a bien géré.
Ils n'ont pas essayé de présenter le déménagement comme quelque chose de romanesque. Ils ont bien dit que ce serait un défi, qu'ils en étaient bien conscients, mais que nous serions capables de le surmonter en agissant comme une communauté. Je crois que nous l'avons fait. Enfin, c'est ce que nous faisons maintenant.
Un sentiment de communauté et le soutien d'un mécène milliardaire. De quoi résister aux attaques politiques.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Ludivine Amado. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr à la rubrique podcast Accent d'Europe. Dans quelques instants, un nouveau point sur l'actualité.